I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Aujourd'hui, comme tous les vendredis de l'année, ou quasiment, je suis avec Martin Mosnier. Et comme tous les vendredis de l'année, bah, on essaye toujours de vous informer, de vous divertir et de vous apporter un petit quelque chose de différent. Et cette semaine, on a été un peu feignant, surtout moi d'ailleurs, et j'ai eu envie de me faire aider, puisqu'on dit que chat, GPT, est l'avenir du...
GPT, non ?
Non, GPT. Oh, je sais plus.
T'es sûr que c'est GPT ?
Et l'avenir du journalisme. J'ai eu envie de me servir de l'intelligence artificielle pour m'aider à faire l'intro. Alors, je vais pas demander de faire une intro parce que ça aurait peut-être été compliqué. Vous auriez senti comme le manque de patte.
Pas sûr. Hein,
du robot. Temps. Donc, je vais simplement. Bah, c'est ma première requête de ma vie. Première requête de ma vie. Je l'ai faite en demandant tout simplement qui est Martin Mosnier.
Voilà, il a dû te répondre.
La première réponse, je suis désolé, mais je ne peux pas trouver d'informations sur une personne nommée Martin Mosnier, etc. On m'a demandé du contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en contexte ? J'ai mis journaliste Eurosport. Et voilà la description que ChatGPT.
J'avais raison, excuse-moi.
Fait de Martin. On va vérifier si tout cela est vrai. Martin Mosnier est un journaliste sportif français.
Journaliste de sport déjà. Parce ouais. que sportif, de moins en moins.
Mais bon, français, de oui. sport, etc., ça va. Travaillant pour la chaîne de télévision Eurosport. Jusqu'ici, tout est bon. Il est spécialisé, alors déjà, il y a un problème, dans la couverture de différents sports, notamment, alors là, le tennis, le basketball et le football.
J'aurais mis le foot en 1 quand même. Mais...
J'aurais mis le foot en 1, le tennis ça a pu arriver.
Ouais, il y a longtemps. Hein.
Le basketball, possible,
pas du tout. Plus...
Ouais, ou alors... sur des serres, des trucs comme ça. Ouais. Serres, un compte rendu évidemment. Mosnier a rejoint Eurosport en 2009. Ça, on peut dire que c'est vrai parce que.
2007.
Oui, hein. Mais techniquement, c'était des contrats différents. Ouais. Bon, on ne rentre pas dans la cuisine interne, mais voilà. Et depuis, il a travaillé sur de nombreux événements sportifs majeurs, tels. Les tournois du Grand Chelem de tennis.
Ah ouais, mais ça, c'était il y a 10 ans.
Voilà. La Ligue des champions de l'UEFA.
Oui, ça m'est arrivé, effectivement.
La NBA.
Moins.
La NFL.
Ah, pas du tout.
Bah, déjà, je ne sais même pas si tu sais l'affiche du dernier Super Bowl.
Ah non, voilà. Bah non, voilà.
Et les Jeux Olympiques.
Oui, quand même.
Voilà. Alors là, il manque quand même.
Ouais, il manque
quelques Coupes du Monde.
Une petite brique, deux briques, oui.
Et quelques championnats d'Europe.
Ouais.
Donc, c'est un peu la limite du robot. La suite. En tant que journaliste expérimenté, ça on peut y aller.
C'est vrai, ouais.
Mosnier, encore une fois, alors lui, il dit plus le prénom, tranquille, comme les footballeurs, est bien connu pour son expertise en matière de sport, sa capacité à analyser les événements sportifs.
Ah, c'est vrai, ça.
Et à fournir des commentaires clairs et perspicaces sur les matchs en cours.
Ah, mince, donc pas, ouais, d'accord.
C'est intéressant, donc c'est tac-tac-tac, voilà, c'est du show, voilà. Je pense qu'il regarde beaucoup les réseaux sociaux, ils doivent se nourrir pas mal, ce truc-là.
Peut-être.
Il est également très actif sur les réseaux sociaux, où il partage régulièrement ses opinions et ses analyses avec ses followers.
Oui, j'en ai pas tant que ça. Hein.
Non, mais enfin, c'est pas la question, c'est juste... Bon, ça se tient globalement. Bon, il y a quand même de grosses erreurs au niveau des sports, quand même.
Sinon, au niveau expertise, je crois que je suis là, ouais. Alors moi, c'est drôle parce que j'ai mis ton nom aussi,
Maxime. Il l'a préparé parce qu'il savait que j'allais le faire.
Non, c'est drôle, j'ai mis ton nom, ça va aller très vite et pour le coup, tout est vrai.
Ouais.
Maxime Dupuis est un journaliste sportif français travaillant pour Eurosport. Il est spécialisé dans la couverture du football, du tennis et des sports automobiles. Pourquoi pas ?
Ouais.
Dupuis a commencé sa carrière de journaliste sportif en travaillant pour des stations de radio locales en France.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Mais depuis 2017 et le lancement du FC Stream Team, il vit dans l'ombre de Martin Mosnier, référence du journalisme français. Pour exister, Dupuis se caricature semaine après semaine en passant ses nerfs sur certains joueurs, notamment un Brésilien nommé Neymar Jr. Voilà. Donc écoute, franchement, bravo ChatGPT.
Parce qu'il est saligo parce qu'il savait que j'allais faire ça, donc il s'est couvert. Alors qu'il m'a lu tout à l'heure ce qu'il avait dit, c'était plutôt sympa aussi.
Bah là en tout cas, on est dans le vrai. Hein. En tout cas, on est dans le vrai, on est dans la justesse.
Non, il y avait un truc que j'aimais bien sur la vraie description, mais je ne sais même plus ce que c'était, voilà, qui correspondait assez bien
à ce que tu faisais. Je pense passer ses nerfs sur Neymar, je pense qu'on est pas mal.
Alors, Neymar, il n'en sera pas tellement question.
Non. Pour une fois.
Alors, pourtant, j'aurais dit du bien, tu vois, si on avait parlé de Neymar.
Ah bah là, tu peux dire du bien, il n'a pas joué.
Mais j'aurais dit du bien, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il fallait qu'il se fasse réparer à la cheville.
Oui.
Plus tant que ça traînait. Mais je pense que le PSG a d'autres chats à fouetter que le cas Neymar, puisque on va en parler, évidemment, ça va être le sujet principal, évidemment, l'élimination du PSG par le Bayern de Munich en Ligue des Champions. 5e élimination en 8e de finale depuis 7 ans, ça fait beaucoup. Et on va se pencher sur le cas, évidemment, Kylian Mbappé. La question toute bête, est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il peut même rester dans ce PSG-là?
Ensuite, on parlera des Bleus et de l'équipe de France, puisque Didier Deschamps va donner sa première liste post-Coupe du Monde. La liste des vice-champions du monde sera retrouvée jeudi. Et on va se poser cette question. Qui pour succéder à Varane, Lloris, Mandanda et Benzema qui ont pris leur retraite? Quel nouveau visage doit-on espérer dans cette équipe de France?
Et cette semaine, je ne vais pas passer mes nerfs sur Neymar, mais sur le coefficient UEFA de la France, et non pas tellement parce qu'il est moyen, ou évidemment les équipes françaises se tôlent en Coupe d'Europe, hormis Nice, mais pour dire que j'en ai assez, c'est pas classement ATP, classement UEFA, donc ça me gonfle un peu.
Voilà, donc pour le petit coup de gueule de Maxime, comme chaque semaine, vous attendez la fin de l'émission.
Ou pas,
ça peut démarrer dès maintenant. Le Paris Saint-Germain s'est donc fait éliminer de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Il n'y a pas eu photo, il y a eu un monde d'écart entre le Bayern et le PSG. Et on va se poser cette question pour revenir sur cette élimination 48 heures plus tard. On va la prendre sous le prisme de Kylian Mbappé, donc sur l'avenir du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé... Elle est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde. On va dire un des deux, trois meilleurs joueurs du monde. Pourquoi resterait-il au Paris Saint-Germain? Quel serait son intérêt à poursuivre l'aventure dans un club qui ne franchit plus les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Maxime?
Alors déjà, il y a les faits. Il est sous contrat.
Voilà. Il lui reste un an.
Alors 1+1. En gros, au début, on avait pensé qu'il avait prolongé jusqu'en 2025. Or, c'est jusqu'en 2024, plus une année en option.
Il faut que les deux parties soient d'accord.
Il faut que les deux parties soient d'accord. Et c'est vrai que s'il la levait assez vite, ça arrangerait tout le monde, parce que ça voudrait dire que le pays n'est pas libre en 2024. Or, en fait, je ne suis pas sûr que ça change la donne. Pourquoi? Parce que le PSG était inquiet pour ses finances, ça fait longtemps qu'il aurait fait des économies. Et que laisser partir des joueurs libres, je pense que ce n'est pas le problème. Et autre chose que le Paris Saint-Germain fait très bien, parce que s'il y a un truc que le Paris Saint-Germain fait très bien, c'est de pouvoir garder ses joueurs quand il en a envie. C'est-à-dire que ce pouvoir économique, c'est aussi, ça lui permet aussi ça. Souvenez-vous Neymar en 2019, quand il veut partir, le bras de fer est allé jusqu'au bout et Paris l'a gagné. Enfin, gagné. Il a gardé Neymar, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est pas trop un problème pour ça. Pourquoi Mbappé est au PSG, en fait? C'est de se poser la question pourquoi il est resté l'été dernier alors que tout le monde pensait qu'il allait partir, alors que le PSG s'était planté en Ligue des Champions et qu'on se disait qu'au bout de 5 ans, il partirait. Pour moi, il y a quatre niveaux d'intérêt à rester au PSG. Il y a son ambition. Évidemment, c'est une ambition personnelle de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. Il y a l'argent, parce que ce n'est pas une paille ce qu'il gagne au Paris Saint-Germain. Il n'est pas certain qu'il puisse gagner autant ailleurs. Il y a le pouvoir, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, parce que je pense que le PSG lui offre un pouvoir que peut-être peu de clubs lui offriraient.
Peu de très gros clubs.
Ouais. Du moins à cette hauteur-là. Et enfin... Bah, y a les sentiments, et ça, Martin, je crois que c'est un truc qui te tient à cœur, les sentiments.
Bah, tu me connais bien, Maxime. Non, mais oui, il y a un côté sentimental qui est fondamental. Il sait qu'une Ligue des Champions gagnée avec le Paris Saint-Germain aurait plus de valeur qu'une énième Ligue des Champions gagnée avec le Real Madrid, par exemple, parce que je prends l'exemple du Real Madrid, parce que c'est là-bas qu'on l'envoie le plus généralement. Et ça, c'est capital. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre les choix de Mbappé si on ne prend pas ça en compte. Ça, c'est la base absolue, et je pense que même c'est l'une des. C'est peut-être la raison principale. Parce qu'au final, oui, l'argent, il pourrait peut-être pas gagner autant, et je pense qu'il a envie d'être le joueur le mieux payé au monde. Cela dit, je pense qu'à City ou ailleurs, il pourrait trouver des niveaux de rémunération. Voilà. L'ambition, je pense qu'il pourrait la trouver dans d'autres clubs aussi. Mais ce côté sentimental, c'est-à-dire offrir la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Offrir la seconde Ligue des Champions au foot français, qui n'en a plus gagné quand même depuis 30 ans maintenant, sortir un peu le football français de club, parce que la sélection tout va bien, mais de club, de l'ornière, de l'ombre, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui anime Kylian Mbappé. Et je pense que tant qu'il n'aura pas fait ça, il y aura un manque, il y aura voilà, quelque chose qui lui manquera dans son aventure au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est ce qui le guide aujourd'hui principalement.
Moi, je reviens sur le, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a ce côté aussi sentimental qui compte, mais c'est, pour moi, c'est le quatrième argument. Je pense que le côté pouvoir lui sied parfaitement, parce qu'il aime bien que tout tourne autour de lui, comme souvent les très grands joueurs, mais il y en a qui l'assument plus ou moins. Par exemple, Messi, quand il était au Barça, il aimait bien que ça tourne autour de lui, mais c'était un peu plus caché, c'est-à-dire que c'était dans le vestiaire où c'était des manières de montrer qu'on a envie que ça tourne autour, mais finalement, ce n'était pas revendiqué. Comme,
lui, l'assume.
Comme un Ronaldo, finalement, c'est le modèle Ronaldo, il l'assume, et peut-être même encore plus loin. Se poser la question du pourquoi déjà il a plongé, pourquoi il reste, c'est se rappeler, la semaine du PSG, elle est caricaturale à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a cette énième élimination en Ligue des Champions, qu'il a prise un peu de, avec un certain fatalisme, en disant c'est notre maximum, simplement, et cette phrase qu'il a eue après le match contre Nantes, en disant si j'étais seulement là pour la Ligue des Champions, ça fait longtemps que je serais loin. Donc déjà, il se permet de dire ça, ce qui montre déjà le poids qu'il a. Mais cette semaine aussi, elle caricature aussi ce qu'est le PSG de Mbappé, c'est-à-dire que cette méga fête pour son 201e but samedi.
Ça t'a pas plu, ça?
Non, parce que pour
ça t'a pas plu.
Non, mais c'est en fait, tant que le PSG. Je ne sais pas si le PSG aurait fait une fête plus grosse s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. C'est-à-dire que la célébration continue de l'individu, quel qu'il soit, est contradictoire avec une envie collective, tout simplement. Pour moi, il y a une contradiction là-dedans, qui est peut-être un peu, comment dire, caricatural, et c'est peut-être un symbole, mais pour moi ça dit aussi ça, c'est-à-dire que à un moment il faut que le PSG comprenne qu'il faut arrêter de célébrer l'individu, mais le problème c'est que Mbappé ça lui va très bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, et le garder c'est aussi assumer ça, c'est assumer le pouvoir de Mbappé, c'est aussi assumer son pouvoir d'influence. Aujourd'hui il aimerait, je pense, enfin je pense qu'il donne son avis, ou au moins il le fait comprendre. Or, l'erreur là-dedans, c'est de penser qu'un joueur n'est pas un directeur sportif, et un joueur n'a jamais changé la culture d'un club. Donc moi, si j'étais Mbappé, plutôt que demander des changements en dessous moi ou à mes côtés, ben, je pousserais pour que ça bouge au-dessus. C'est-à-dire que le problème du PSG, encore une fois, c'est une culture inculquée depuis 12 ans de QSI, et il n'y a qu'une personne qui n'a pas bougé depuis 12 ans au PSG.
Oui, mais je dirais que si Campos et Galtier sont là, c'est parce que Kylian Mbappé l'a bien voulu. Et donc, d'ailleurs, je pense à ce titre que l'assurance vie de Campos et de Galtier, elle s'appelle Kylian Mbappé. Et que si ces deux-là ne bougeront pas cet été, ne bougent pas cet été, ce sera d'abord pour contenter et ne pas fâcher Kylian Mbappé qui, sous le coup de la colère, pourrait être tenté d'aller voir ailleurs. De toute façon, tout le projet est bâti autour de lui. C'est le paradoxe de Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il a envie d'avoir les coups des franches, il a envie de. C'est un joueur qui casse les codes depuis tout petit, depuis tout gamin. Parce qu'il est persuadé de sa trajectoire. Et donc, il a cassé les codes. Donc, c'est le premier, si on caricature un peu, c'est le premier joueur dirigeant de l'histoire. Il a une exigence absolue pour tout, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors. On voit comment parfois il se comporte avec certains de ses coéquipiers, comment il peut être agassant. Mais c'est tout le temps, c'est souvent dans le but de faire progresser l'équipe. Mais c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'il a cette exigence-là, mais il ne l'a pas vis-à-vis de son club. Parce que si son club lui donne les pouvoirs à lui, un joueur, c'est qu'il manque d'exigence, ce club-là. Et donc, c'est tout le paradoxe de Kylian Mbappé qui, pour moi, c'est le premier facteur qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs, c'est le manque d'exigence du Paris Saint-Germain. Parce que quand tu vois que Verratti il dribble dans sa surface, ça doit le foutre hors de lui, Kylian Mbappé. Parce que quand tu vois que Neymar il est absent un grand rendez-vous sur deux, ça doit le foutre hors de lui, Kylian Mbappé. C'est typiquement pas le genre de club qui sied à son exigence personnelle propre. Donc, il y a un mariage là, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce que nous a montré cette saison, c'est-à-dire que lui est irréprochable. Alors on peut parler de son match à Munich, qui n'est pas bon, évidemment, mais quand même, quand tu prends la somme globale de tous ces matchs, lui, pour le coup, il est irréprochable, alors qu'à côté de lui, c'est la pagaille absolue, et tout le monde a une part de responsabilité. Et voilà, pour moi, c'est ce qui devrait le pousser, Kylian Mbappé, à partir. C'est d'aller dans un club où il y a cette exigence pour tout le monde, et il y a des sanctions quand ça se passe pas bien.
Ouais, et puis mercredi, ça se passe pas bien, mais c'est aussi, il faut rappeler qu'il ne peut pas tout faire et qu'il est à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut que les ballons arrivent. Et tu parles des deux erreurs de Verratti. même au-delà de ça, moi, Verratti, c'est, j'enlève les deux erreurs parce que j'aurais pensé la même chose s'il s'était fait éliminer sans qu'il perde le ballon. Voilà, c'est qu'à un moment, Verratti symbolise très bien ce PSG-là, c'est-à-dire qu'il tourne en rond et sans remise en question. C'est-à-dire que ça fait, il est là depuis 2012. Est-ce qu'il a progressé ? Alors, il a progressé évidemment par rapport aux premières années, mais est-ce qu'il est arrivé là où il devrait être, là où on pensait qu'il serait ? Non. Et PSG, c'est un blanc-seing, c'est-à-dire qu'il a prolongé. Et ça, ça colle pas pour moi avec un mec comme, comme Mbappé.
Oui.
S'il y a un truc qui ne colle pas, c'est que cette exigence, comme tu l'as dit, qu'il a pour lui, il faut l'avoir pour le reste. Et ce qui est marrant, c'est que si tu analyses bien, alors il parle très peu devant la presse, Mbappé. Mais depuis le match aller quand même de Bayern, il y a eu cette sortie sur « on va bien dormir, on va bien se reposer, on va bien manger ». Il y a eu « c'est notre maximum » et il y a eu donc, la phrase « si j'étais là pour la Ligue des Champions, en tant que je serais loin ».
Il déglingue le PSG.
Il déglingue tout le monde et il met de l'ironie là-dedans. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle facette de son… Et ça, ça dit encore sur son pouvoir. Parce que, imaginez
quand il parle
que,
comme un dirigeant.
Voilà, et tu faisais la liste, on a oublié quelque chose dans la liste. Si Le Graet s'est retrouvé avec la tête sur le bio…
Oui, c'est vrai.
C'est lui. Donc là, il a un pouvoir qui est fou. Mais c'est aussi un paradoxe. C'est-à-dire que, je le répète, un club la culture d'un club n'a jamais changé avec un joueur. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte de plus haut. Il faut que ça soit beaucoup plus fort et que d'en haut, on ait envie de changer ça. Et la question est de savoir si le PSG en a vraiment envie. Moi, vraiment, si je suis Mbappé, je leur dis « Ok, je suis sous contrat. Je veux bien prolonger pour mon année en option. » Mais vraiment là, on a fait là. Parce qu'au fond, c'est injuste de dire que le PSG n'a pas changé l'été dernier. Recruter Galtier, c'était un changement. C'est-à-dire qu'ils aient renoncé à une partie du bling-bling. Alors, de dire que peut-être que l'été dernier, c'était l'étage 1 de la fusée.
Voilà, c'est ça. Et, moi, je pense
et que là, il faut aller beaucoup plus loin.
Voilà. Moi, je pense que c'est l'optique dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'optique de partir cet été parce que je pense qu'il voit ce plan en deux étapes, même si cette première est complètement ratée, et de toute façon on pourra pas faire un autre constat, parce qu'en plus de la Ligue des Champions, en plus la défaite en Coupe de France au Vélodrome en plus, donc il y a ce double échec là, mais je pense qu'il l'englobe dans, je pense qu'il va donner une dernière chance à Campos. De toute façon, Campos et Mbappé, il faut savoir qu'ils se connaissent depuis qu'il est tout gamin, Mbappé, qui a un rapport entre eux qui dépasse le cadre professionnel, et que du coup Campos est là, on lui a donné les pleins pouvoirs. Il sait qu'a priori, il va y avoir tout qui va être mis en place cet été pour construire une équipe autour de lui. Maintenant, restent les questions centrales des prolongations de Ramos et Messi, parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Mais je pense que voilà, il est dans cette optique-là. Le deuxième étage de la fusée maintenant. Voilà, ils en sont là. Il a fait le constat. Et d'ailleurs, dès le début de saison, où il a dit que de toute façon, le recrutement, il a très, très clairement fait comprendre que ça ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Vous souvenez-vous du pivot gang et compagnie. Donc ça commence à remonter, mais c'est toujours dans son esprit. Et donc voilà, il y a une séance de rattrapage pour mener cette équipe autour de lui-même.
Et le fameux mélodrame de ses envies de départ pour le mois de janvier. En fait, ce qu'il ne faut pas, moi je serais lui, ce qu'il ne faut pas que s'installe, c'est la petite musique qui est chantée par Galtier, qui est une manière aussi de dédouaner un peu ce Campos et lui, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de construction, mais c'était un problème, conjoncturel, trop de blessés. Non, c'est évidemment que le PSG n'est pas chanceux d'avoir trop de blessés. C'est sûr que deux arrières centraux qui se blessent en 10 minutes, c'est compliqué, bien que le premier était déjà blessé avant et peut-être qu'il aurait fallu repasser à 4 pour éviter ça. Mais pourquoi aussi ? Parce que quand on regarde les deux bancs, notamment du Bayern, qu'est-ce qui a empêché le PSG d'avoir un banc comme le Bayern ? Enfin, à un moment, ils ont les moyens. Le Bayern dépense 3, 4 fois, 5 fois moins que le PSG sur ses joueurs. Donc à un moment, c'est aussi ça. Il y a une erreur de construction quand même. Elle n'est pas seulement dépendante, elle ne vient pas seulement de Campos ou de Galtier parce qu'ils ne sont pas là depuis 10 ans. Mais n'empêche qu'il y a quand même une erreur de construction dans cet effectif. Donc voilà, il y a l'été prochain, l'étage numéro 2 de la fusée. Après, nos confrères de l'équipe ce matin ont publié une petite liste de joueurs pour venir potentiellement renforcer le PSG. J'ai un petit doute quand même. Mais bon, ça, c'est l'avenir le dira.
On passe au deuxième sujet, Maxime ?
On peut passer au deuxième sujet.
T'as tout donné ?
Ouais, on va arrêter l'émission là.
Jeudi, Didier Deschamps donnera la première liste des vice-champions du monde 2022. Les nouveaux bleus qui seront engagés dans la mission Euro 2024 et même Coupe du Monde 2026. Une liste qui pourrait faire la part belle aux petits nouveaux. D'abord parce qu'il y a une nouvelle aventure qui commence. Et ensuite, parce qu'il y a eu 4 retraites internationales et non des moindres, Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Alors, on s'est amusé à essayer de chercher les petits nouveaux qui pourraient animer les débats et qui pourraient s'installer surtout dans ce groupe-là. On en a choisi 3 chacun avec Maxime. Est-ce que tu veux démarrer, Maxime ?
Je vais démarrer déjà en disant en préambule que cette liste est aussi importante pour Deschamps parce qu'on n'a pas oublié évidemment tout le foin qui a été fait autour de sa prolongation de contrat, des 4 ans, de Zidane laissé à la porte, d'une espèce de privatisation de l'équipe de France. Donc je pense que lui, il va être aussi animé par cette envie de mettre un peu de sang neuf et puis de toute façon c'est logique. Le premier nom, c'est un défenseur. Alors le problème c'est que les défenseurs sont trop, il y en a beaucoup en équipe de France et des très bons, on l'a vu. C'est Jean-Claire Todibo. Un joueur qui a commencé par perdre du temps en étant allé très vite, c'est-à-dire qu'il est passé par Barcelone, Benfica, Schalke, ça ne s'est pas bien passé. Et là, à Nice, et surtout depuis le début de l'année, c'est formidable. C'est pas loin d'être le meilleur joueur du championnat. Il est dans les 3 d'ailleurs nommés UNFP, il me semble, pour le joueur du mois de février. Et une stat qui résume un peu tout ça, 78% de duels gagnés, 55 sur 70 depuis la Coupe du Monde. Donc en gros, le type est au niveau sur un nuage. Il a été présélectionné par Didier Deschamps. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais n'empêche que ça veut dire que vous êtes dans le scope. Le hic, évidemment, s'appelle Upamecano, Konaté, Badiachil, Disasi, Saliba et peut-être même Fofana, ce qui est incroyable quand on sort la liste. Mais en tout cas, je pense que lui, il a intérêt à être, j'allais dire, branché, je ne sais pas où, sur sa télé, devant Twitter, où il veut. À 14h jeudi, ça ne me paraîtrait pas impossible qu'il soit là.
Moi, je vais citer un joueur que j'aurais aimé voir. J'en parle souvent dans cette émission, d'ailleurs. Ça fait au moins la 3e fois que j'en parle. C'est évidemment Pierre Cahulu. Le mec, il est quand même titulaire chez les champions d'Italie. Quart de finaliste de la Ligue des champions. Il sait jouer à droite à un poste sinistré en équipe de France. Comme a priori, en plus, on parle plus de piston maintenant en équipe de France. On est repassé à une défense à 4. Donc, lui à droite, c'est presque naturel. C'est même naturel. Donc, il n'y a que Koundé maintenant, puisque Pavard, je ne suis pas sûr qu'on le revoie. On se souvient de sa Coupe du Monde où il n'a plus joué après son match contre l'Australie. Didier Deschamps lui a même préféré Axel Disasi. Donc, voilà, il résout pas mal de problèmes qu'a eu pour moi. Et il apporte une alternative, voire un peu plus, à Jules Koundé. Donc, pour moi, ça me semblerait naturel de le voir débarquer en équipe de France jeudi.
Ouais, c'est vrai que dans l'équilibre du groupe, c'est presque lui qui a la plus grosse ouverture. Parce que, comme tu l'as dit, moi, je serais étonné que Pavard soit là, ne serait-ce que par principe, je dirais. Le faire revenir après le mois Qatari tout de suite, ce serait compliqué, même s'il fait le job avec le Bayern. Et pour le coup, c'est open. Et on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Et dire que pendant des années, on critiquait, on critiquait les arrière-droits de l'équipe de France, on disait ouais, Sagna, c'est pas terrible. Aujourd'hui, je pense que
Sagna est
titulaire tous les jours. Il est à 150 sélections. encore un Niçois de mon côté, qui lui aussi a reçu une préconvocation. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y sera, mais a priori, ça veut dire que Deschamps le regarde. C'est le fils d'eux, le frère d'eux, Kefren Thuram, au milieu de terrain. Alors, on a eu le père, Lilian, en défense, on a l'attaquant Marcus Thuram et peut-être le frère Kefren qui lui aussi, alors il a été bon avant l'arrivée de Digard, mais depuis Digard, il est sur la lancée de Niçoise. Le milieu de terrain est un chantier plus ouvert que la défense, parce que notamment dans l'axe pour Jean-Claire Todibo, il y a moins de place à prendre, mais sur le milieu, on sent que Kanté ne sera pas là, Pogba, ça me paraît difficile, qu'il y a des choses à reconstruire au milieu de terrain, parce qu'évidemment Griezmann ne va pas rester milieu de terrain. Je ne pense pas toute sa vie. Donc, il y a une place à prendre. Et surtout, il a un profil très intéressant. C'est un joueur qui récupère, qui va de l'autre côté de la surface, qui peut être décisif par ses passes, par ses buts. Donc, vraiment, il y a quelque chose à voir. Un joueur assez élégant. Donc, je pense que lui aussi, il a sa petite chance pour jeudi.
Moi, au même poste, au milieu de terrain, Manu Koné de Mönchengladbach, 21 ans. Et je me dis qu'il doit, pour moi, symboliser cette nouvelle génération qui incarnera l'après Coupe du Monde, l'après 2022, et qui peut incarner le projet 2026. Est-ce que Kanté et Pogba seront à la Coupe du Monde 2026?
Les deux, je mets 0% de chance.
Voilà, rien n'est moins sûr.
Enfin, donc, peut-être un, mais les deux.
Donc, il y a déjà un chantier qui est ouvert, puisque Tchouaméni, Kamavinga, tous ces hommes-là sont très jeunes et sont amenés à prendre la succession, mais il faut sans doute en trouver d'autres. Il casse tout en Bundesliga. Ça fait, malgré son jeune âge, ça fait quand même quelques temps qu'on y pense. Là, il y a une vraie ouverture. C'est la première liste post-Qatar. franchement, ce serait, à mon avis, dommage de ne pas y aller.
Et puis, en plus, je le redis tout à l'heure, quand on parlait de la cette liste pour Deschamps, il sait très bien faire aussi allumer 2-3 contre-feux en mettant des joueurs un peu nouveaux qui vont attirer l'attention et faire oublier d'autres sujets. Alors, j'en ajoute un dernier, moi, qui... Je pense qu'il a plus une tête de remplaçant d'un forfait, même s'il n'a jamais vu Clairefontaine, c'est Valentin Rongier. Alors, Valentin Rongier, son principal défaut, je pense que c'est cette liste-là, elle arrive presque un peu tard, là. C'est-à-dire que sa grande période, ça a été vraiment au mois de février. Il a une qualité qui peut être un défaut aussi, c'est qu'on peut le faire jouer à peu près. On a cherché un arrière droit, il sait faire. Défenseur central, il sait faire. Et milieu de terrain, il sait faire. Et je pense que Didier Deschamps, évidemment, Didier Deschamps déjà n'est jamais insensible à ce qui se passe à Marseille. Il part du principe qu'un joueur qui réussit à Marseille, il sait ce que c'est lui de s'imposer à Marseille. En plus, quand on vient de Nantes et qu'on est milieu de terrain. Donc je pense qu'il a forcément l'œil sur lui de là. Je pense qu'il passe derrière Thuram, à mon avis, aujourd'hui, dans l'esprit de Deschamps.
Même connaît. Hein.
Mais je pense que il faudrait pas beaucoup de forfaits pour qu'un Rongier ait sa chance en équipe de France.
Et je terminerai avec une grosse cote, mais pourquoi pas, parce qu'il ne joue pas beaucoup en ce moment, même si, a priori, Laurent Blanc nous dit que ce n'est pas grand-chose. Mais Malo Gusto. Alors, c'est peut-être trop tôt. C'est sans doute trop tôt, même. Mais franchement, on part sur un cycle de 4 ans. Il s'est engagé avec Chelsea et je pense que c'est le seul défenseur droit de formation. J'insiste de formation parce qu'effectivement, Koundé joue à droite, mais c'est un central avant tout. Français qui jouera dans un grand club européen. Donc, faussons avec lui, lançons le projet Gusto 2026 parce que de toute façon, il n'y a personne à droite. Il faut le tester. Moi, je pense que voilà. Il n'y a pas de grand risque à prendre à tester un Malo Gusto. Oui, il est sans doute peut-être un peu tendre, c'est sans doute un petit peu tôt, mais je me dis qu'on a un profil, là on tient un vrai profil d'arrière droit et même de piston droit, même plus encore de piston droit. Donc allons-y. Voilà, ça en fait 6.
Ça en fait 6, c'est vrai que le poste d'arrière droit, et tout à l'heure quand j'ai cité les centraux, je n'ai même pas cité Jules Koundé.
Oui.
Donc c'est pour dire
ou
que.
Pas
oui, pas mal. Ouais.
Non, mais c'est
en
vrai.
En tout cas, voilà, le côté droit est vraiment. Enfin, ça serait quand même étonnant
qu'il n'y ait pas quelqu'un,
qu'il n'y ait pas une nouvelle tête, voilà, à droite.
Parce que, moi, si je devais miser sur. Mais à chaque fois je dis ça, mais je vois pas comment on peut se passer de Kalulu encore. Enfin, je sais pas. Je ne comprendrais pas, mais et il y en a d'autres. Hein. Il y a potentiellement, on peut aller sur du Ludovic Blas. Pourquoi pas sur du Eli Wahi, si on va très très loin. Pour ces gens-là aussi, c'est sans doute peut-être un peu tôt, mais. Encore une fois, on va être dans une liste particulière.
Ouais. Et paradoxalement ou pas d'ailleurs, on a des défenseurs des milieux de terrain, mais pas d'attaquants.
Et oui, parce que j'ai cherché, mais j'ai du mal à trouver.
Ouais, déjà,
Eli Wahi.
Ouais, le grand mystère, ça va être est-ce que Deschamps va rappeler Giroud au regard de son grand âge. Je sais pas. Je pense, mais je ne sais pas. Évidemment, l'autre chantier dont on n'a pas parlé, mais on en parlera dans la semaine sur Eurosport.fr, c'est évidemment.
On oublie un. Ilan
Meslier, voilà, qui fait partie évidemment. Alors, on va très vite aller sur les gardiens de but. Loris Mandanda à la retraite internationale. Deux places à prendre. Il y en a une qui est pour Mike Maignan, évidemment, qui est revenu et qui est déjà très en forme, comme il l'a montré à Londres mercredi. Sans doute une pour Alphonse Areola,
oui.
Tranquillou,
ouais.
Bien assis. Peut-être pour Lafond.
Il y a Lafond,
ouais.
Samba. Chevalier.
Ouais.
Meslier.
Chevalier, je pense que c'est un peu tôt, mais je pense que voilà, Samba et Meslier. Et Meslier, l'intérêt évidemment de l'avoir, c'est évidemment une expérience de première ligue. Le prototype du gardien moderne, alors c'est peut-être pas ce que Deschamps cherche. Il n'est pas un adepte du jeu au pied, de la relance, etc. D'un gardien qui joue quasiment défenseur central, mais n'empêche qu'il peut apporter un truc en plus. Et peut-être que dans les oppositions, c'est bien de l'avoir, parce que quand il vous manque un joueur de champ, vous en avez un de plus.
Voilà, exactement. C'est un super argument, ça. Voilà, donc rendez-vous jeudi. En tout cas, elle est bien excitante. Alors, pas autant que celle de la Coupe du Monde, cette liste.
Mais et on aura deux matchs en Irlande et contre les Pays-Bas.
Au Stade de France.
Voilà.
Voilà. On termine par le coup de griffe. Bon,
non, je sais pas. Non, ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais vous le savez certainement, le coefficient UEFA de la France est devenu quasiment le plus grand suspense de l'actualité sportive. il n'y a pas une semaine de Coupe d'Europe sans qu'on regarde ça fébrilement pour se dire attention, on est cinquième, est-ce qu'on va se faire passer par les Pays-Bas, est-ce qu'on va se faire passer par le Portugal, parce qu'il faut le dire. Perdre une place, c'est reculer évidemment dans la hiérarchie européenne, pardon, et c'est aussi perdre notamment le bénéfice de trois clubs dans la prochaine mouture de la Ligue des Champions.
Trois clubs directement qualifiés.
Trois clubs directement qualifiés.
Et un quatrième en barrage, c'est ça, non ?
Ouais.
Donc, c'est costaud quand même.
C'est costaud, mais j'en peux plus.
Voilà. Ah !
Non, mais vraiment, c'est, on est en train de regarder ça. En fait, on a l'impression qu'on prend ce classement comme une cause et non une conséquence. Mais non, c'est juste que le football français est nul en club et que si on dégringole, bah, ce sera bien fait pour nous, tout simplement. C'est que les Pays-Bas, surtout le Portugal avec Benfica qui est en quart de finale, encore une fois, c'est quelque chose de mathématique. Donc, on est tout le temps en train de courir derrière ça. J'ai l'impression que c'est devenu un épouvantail du football français. Or, moi, ça m'agace parce qu'on n'a qu'à être meilleur, tout simplement. On ne se poserait pas la question.
7 Coupes d'Europe, je crois, pour le Portugal. 11 pour les Pays-Bas. 2 pour la France.
Ah, oui.
Donc, et je ne parle même pas de la Ligue des Champions parce que je crois que c'est 6 Pays-Bas, 4 Portugal et 1 pour l'équipe de, 1 pour l'équipe de France, ouais. 1 pour les clubs français. Donc, à un moment donné, effectivement, si on dégringole, c'est qu'on l'aura bien cherché, qu'on l'aura bien mérité. Cette année, on se fait sortir par Shakhtar et Leverkusen pour Rennes et Monaco. Ben voilà, c'est notre niveau. Voilà.
Oui, c'est ça.
Alors, à part Nantes qui se fait sortir par la Juve, où là, tu te dis que c'est vrai qu'il y a un delta entre les deux équipes, bah, le PSG, ils doivent normalement regarder dans les yeux le Bayern. Ils ne sont pas à la hauteur. Monaco n'est pas à la hauteur. Rennes n'a pas été à la hauteur. On en est là, voilà. Et de leur côté, Alkmaar, ils sont toujours là. Le Sporting, ils sont toujours là. Benfica, Porto, ils sont toujours là. À un moment, voilà, c'est comme tu le disais. On est nul. On n'est pas nul cette année. On est nul depuis des années. Alors parfois, comme en 2017, il y a... Mais ce sont des accidents, en fait.
Oui. Bah oui.
Les accidents, c'est quand la France réussit et arrive à placer deux équipes dans le dernier carré des compétitions européennes. La vérité, c'est qu'on n'en gagne pas. C'est même pas qu'on n'en gagne plus, c'est qu'on n'en a quasiment jamais gagné. Hormis dans les années 90, on en gagne deux. Voilà, sinon, on n'en a quasiment jamais gagné. On est même quasiment jamais en finale. Le Portugal et le Pays-Bas le sont beaucoup plus. Donc, il y aurait rien d'infamant, de choquant à voir cette cinquième place, nous échapper.
Ouais, les années 90, c'est vraiment l'âge d'or du football de club français, au-delà des victoires, parce que la France était, il me semble, le deuxième pays au coefficient UEFA, derrière l'Italie qui était évidemment très au-dessus. Mais deux coupes d'Europe en 3 ans avec l'OM et le Paris Saint-Germain.
Bordeaux qui arrive en finale.
Bordeaux en finale la même année que le Paris Saint-Germain. L'OM qui en fait une en 99, l'OM qui en fait une en 91. L'année de l'OM. Qui gagne contre le Milan AC, il y a dans les deux autres demi-finales en C3, Auxerre et le PSG. Donc voilà, et encore une fois, c'est Bosman qui a un peu tout tué, parce qu'évidemment les talents se sont exportés, que le football français n'a pas suivi, mais à un moment, voilà, on a que ce qu'on on récolte, ce qu'on mérite. Et surtout, ce qui m'agace, c'est ce regard sur le coefficient UEFA, ces comptes d'apothicaire alors que les clubs français jouent aux épiciers. Voilà. Les Coupes d'Europe. Combien de fois ce discours on l'a eu ? Alors c'est un vieux discours.
Oui, mais ça j'ai l'impression qu'on l'a plus.
Comme
ce discours,
Francis Gillot. En gros, on se qualifie pour la Coupe d'Europe le jeudi, mais ça m'emmerde de jouer le jeudi en
Coupe
d'Europe.
Oui, mais je crois qu'on l'a plus ce discours. Ouais. Là on n'a même plus cette excuse-là. Voilà. Mais là, on n'a même plus. C'est vrai qu'à une époque, effectivement, quand certains clubs français jouaient en Ligue Europa, ils faisaient tourner le jeudi, ce que je trouvais ça. Enfin, je trouvais ça. Mais aujourd'hui, ce sont des vrais objectifs, les Coupes d'Europe. Et oui, c'est d'autant plus inquiétant. Parce que même si on met la meilleure équipe possible. Eh ben, on n'est encore pas au niveau, encore une fois, du Shakhtar Donetsk ou de Leverkusen. Donc oui, on ne peut pas viser au-dessus. On est juste à notre place. Et même, je pense qu'on est au-dessus de notre place. Là. Donc, de toute façon, ça va être très dur de résister aux Pays-Bas et au Portugal parce qu'ils ont encore beaucoup de clubs dans la compétition.
C'est le paradoxe, c'est vrai. Alors moi, je ne suis pas dithyrambique sur la Ligue 1 dont on vante les mérites toutes les semaines pour dire que c'est un championnat fantastique. C'est un championnat qui est meilleur, ça je le reconnais, qui a quelques années, où ça joue, qui apporte un vent de fraîcheur, mais ce vent de fraîcheur, il s'arrête à la frontière, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. C'est que ça s'arrête à la frontière et dès que ça dépasse, on perd tout ça. Et vous prenez le tour, pour l'anecdote, le dernier tour de barrage de C3, C4, etc., moi j'étais en vacances, je me réveille le lendemain matin, je vois les trois éliminés. Je me dis, mais Monaco a réussi à se faire sortir. Alors Nantes, la Juve, ok. Et Rennes aussi. Alors Rennes, ils étaient en position défavorable. Mais vous dites, c'est pas possible quand même. C'est un moment, soit ils le font exprès, ils ne jouent pas le jeu, ce qui n'est pas le cas, comme tu as dit. Soit ils sont tout simplement pas au niveau, ils n'ont pas la régularité pour aller loin en Coupe d'Europe. Il faudrait, on aurait dû vous préparer ça. Regardez sur les 20 dernières années, combien de pays ont mis des clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, hein. Et combien d'équipes par pays. On tient pas la comparaison. Et c'est fou qu'il n'y ait pas ces accidents heureux. Enfin, si on les a, ces accidents heureux, c'est la dernière, peut-être Marseille qui arrive en demi. Ça va être 2018 Marseille, ça va être Monaco en 2017. mais ça reste tout le temps des accidents et c'est pas normal. Et ça peut pas, en plus, on a dit beaucoup de mal du PSG en début d'émission.
Mais tout repose sur lui.
Ça peut pas reposer que sur le PSG, c'est pas possible à un moment, c'est impossible. Et je pense que les mois qui viennent et les années seront pas forcément très heureuses parce qu'encore une fois, ouais, la Ligue 1 c'est sympa, mais dès qu'il faut aller à l'étage supérieur, il n'y a plus personne.
Merci Maxime pour ce vrai vent d'optimisme.
Merci à Nice quand même.
Oui, merci à Nice. Merci Nice, même s'ils ne sont pas passés encore.
Ils ne sont pas passés et c'est terrible parce que hier le match, je me dis chez Tiraspol, avant le match, je me dis bon, je ne suis plus à une déception.
Ouais, ça ne passera peut-être pas. Voilà. Merci Maxime.
Merci Martin.
J'espère que ta bio de Chad GPT va évoluer après cette émission parce que tu as quand même été très très bon. Et je trouve que tu arrives bien maintenant à. Voilà, sortir un peu de mon ombre et à voler de tes propres ailes. Donc je trouve ça plaisant. Merci à Antoine Le Breton.
Ouais. Qui est-il breton d'ailleurs?
Ouais. Non, voilà.
Et non, même pas. Même c'est pas. Son nom de famille, mais il est le breton.
Ouais. Et ça n'a aucun sens.
Pour l'anecdote, ceux qui nous suivent, ce serait le nom qui irait le mieux à Glenn. Glenn Le Breton, ça va
parfait. Je pense qu'il serait prêt à payer pour avoir ce nom-là. Voilà. Merci à Quentin au visuel, Quentin Guichard.
Qui n'a rien à voir très joli de famille. Avec Geoffroy, ni.
Non.
Il s'appelle
Daniel.
Daniel. Est-ce qu'il est plus près de Geoffroy que de Daniel?
J'espère pour lui qu'il est plus près de Geoffroy que de Daniel.
Moi, je pense qu'il est plus près de Daniel.
Moi aussi, je pense aussi.
Dans sa tête.
Ouais, moi aussi, je pense. Rendez-vous la semaine prochaine, sans moi. Donc, ce sera une stream team qu'on écoutera, mais d'une oreille, du coup. Un peu détaché.
Peut-être que je mettrai un coup de chat GPT pour Cyril.
Ouais, pour Cyril, tout à fait.
Il va aller vérifier avant, il va écouter, il va savoir, il va aller checker.
Bien sûr. Cyril et Maxime, donc, la semaine prochaine, pour une stream team qui sera moins brillante, mais qui fera le taf.
Hein, bon, écoute, voilà. Alors, comme dirait l'autre, ça a le mérite d'exister.
Exactement, exactement. Et ben, ça sera peut-être ton épitaphe. Il aura eu le mérite d'exister.
Ouais, ou j'hésite entre ça ou trop bon, trop con. Je sais pas encore.
Il a eu le mérite d'exister. C'est ouais. Pas... l'horreur. Bon, merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine.
Attends, avant de finir. T'as ça dans le cimetière devant ta tombe. C'est l'assurance que personne ne t'oublie jamais.
C'est vrai, parce que c'est très drôle.
Parce que là, l'oubli, tu vois, moi, ma grande peur, c'est l'oubli.
Ouais.
Et bah là. T'as ça.
Mais Maxime, d'où on va t'oublier? Mais dans 50 ans, les gens, ils réécouteront la stream team.
Deux jours après, ça terminé.
Tu crois quoi? Les gens, ils iront sur tes papiers, Maxime. Mais tu seras étudié à Harvard, Maxime. Mais je pense que tu l'es déjà, d'ailleurs.
Ouais.
Je pense que tu l'es déjà. S'il y a des étudiants d'Harvard qui nous écoutent.
J'ai un papier dans le Times.
Allez, ça y est, va se la raconter. J'ai écrit un bouquin.
Voilà.
Il est en rupture de stock. Voilà, il m'a dit ça avant l'émission pour que je le place, évidemment, dans l'émission. Mon bouquin, il est en rupture de stock. Là. Donc voilà, le mec. Mais bon, rendez-vous la semaine prochaine, Maxime.
Semaine prochaine, salut.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.